Merci, et tout de suite, on déhausse la raquette.
1, 2, 3.
Bonsoir, je m'appelle Thomas Ostermeier.
Bonsoir, je m'appelle Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Thomas Ostermeier, homme de théâtre allemand, francophone et phile. Vous êtes de ceux qui portent le mieux l'adjectif contemporain, à la fois comme président du Haut Conseil culturel franco-allemand, où vous œuvrez sans élitisme pour une Europe plus artistique que marchande, comme directeur du théâtre de la Schaubühne à Berlin, où vous faites entendre les textes brûlants de Lars Norén, Sarah Kane ou Falk Richter, mais aussi les classiques abrasifs que sont Brecht, Ibsen et Shakespeare. Et enfin comme metteur en scène rock'n'roll, qui redonne à la fonction cathartique du théâtre tout son sens, particulièrement dans votre cinquième Shakespeare, Richard III, devenu légende instantanée à Avignon en 2015, et que vous reprenez au théâtre de l'Odéon à Paris jusqu'au 29 juin.
Ping-pong, la culture sans limite. Oh, yeah.
Shakespeare fait-il trembler les puissants ? Richard III, toujours diablement d'actualité, comme nous l'allons vérifier ce soir avec Thomas Ostermeier, est bien sûr craint par les personnages qui l'entourent sur scène. Mais l'œuvre de Shakespeare fait encore claquer des dents dans le public et désormais jusque dans le bureau ovale de la Maison Blanche. En cause, une récente mise en scène de Jules César à Central Park à New York par la troupe du Public Theater, où César était affublé d'une moumoute blonde et sa femme d'un accent slave, et où le tyran shakespearien se faisait assassiner par une foule de femmes et d'hommes issus des minorités raciales de l'Amérique de l'oncle Trump. Gauche. Aussi sec, des médias proches du Parti Républicain sont montés au créneau sur Twitter et de généreux sponsors comme la compagnie aérienne Delta et la Bank of America ont retiré leur soutien financier à la troupe, un cheveu trop engagé. Et même quand un élu démocrate de New York leur a expliqué que c'était du théâtre et pas la réalité, et même que de déchaîner un peu de violence cathartique au théâtre pouvait étonnamment apaiser les débats in real life, eh bien rien n'y a fait, et le blogueur américain de droite dure, Jack Posobiec, celui qui avait relayé le premier les Macron Leaks, a ainsi déclaré aux acteurs « Vous êtes tous des Goebbels ». On aurait envie de lui répliquer avec une tirade de ce même Jules César de Shakespeare « L'œil ne se voit pas lui-même, il lui faut son reflet dans quelque chose d'autre ».
Above all else.
Above all else.
Above all else.
Above all else. The public theater believes that culture belongs to everyone.
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 Everyone. The public will continue to champion free expression.
Free expression.
And free expression, as it always has done. Join us.
Join us.
Alors ce Public Theater de New York existe depuis 1967, depuis 50 ans. On entendait un de leurs clips pour inviter à les rejoindre au nom de la liberté d'expression. Thomas Ostermeier, il y a ce discours libre et engagé, toujours politique, du Public Theater à New York qui s'est fait une spécialité des représentations gratuites dans Central Park et qui est un discours aussi, ils y tiennent, volontiers violent mais symboliquement. Et le directeur de la troupe de dire que ce Public Theater est une machine à fabriquer du commun, de la communauté. Est-ce que vous partagez cette idée d'une violence théâtrale qui sert à fabriquer, comme il le dit encore, du dialogue civique ?
Ah oui, au fond, moi je suis très bon copain avec le directeur du Public Theater. On a même accueilli un spectacle là, récemment à la Schaubühne du Public Theater de Richard Nelson, The Gabriels, qui était une recherche sur les intellectuels de la côte de l'Est américain pendant les élections de Trump. Et la troisième partie a eu lieu à la jour même de l'élection de Trump. Mais en vous écoutant, là, les dernières deux minutes, ça me fait penser tout de suite à ce qui se passe à la Schaubühne, parce qu'il faut pas aller...
Le théâtre que vous dirigez à Berlin.
Oui, il faut pas aller jusqu'au Amérique du Nord pour être choqué de comment les choses se développent, parce qu'on a déjà eu le troisième procès avec l'extrême droite qui voulait nous interdire d'utiliser leur visage dans un spectacle de Falk Richter qui s'appelle Fear, qui est un spectacle sur l'arrivée de la nouvelle droite en Allemagne. Et on a gagné trois fois devant la cour, trois personnes qui voulaient nous interdire. Et hier, j'ai reçu la lettre que la troisième personne, Madame Kubi, elle va rentrer dans la révision, ça s'appelle en français, quand on fait un deuxième appel.
Quand on fait appel,
à la cour.
Oui. Ah oui, une révision, oui.
Une révision. puisqu'elle croit que les droits sur la personnalité est beaucoup plus important que la librement expression de l'art. On a gagné 3 fois, et là, pendant l'année prochaine, on va encore une fois aller devant la cour, et on a eu des menaces très fortes, des menaces des morts même, et on a eu des graffitis devant le théâtre. Il y a un groupe qui s'appelle, je crois que vous connaissez aussi, les Identitaires, qui ont aussi une sorte de troupe à Berlin, qui ont essayé d'interrompre une discussion avec Falk Richter, qui ont filmé pendant le spectacle. Pas seulement en Amérique du Nord, les choses vont mal, mais aussi en Europe.
C'est une sensation que vous avez eue comme ça, d'un glissement, d'un durcissement de ces blocs identitaires, de ces réactions de l'extrême droite. Vous arrivez en co-directeur artistique à la Schaubühne en 1999. Il y a des choses qui se sont dégradées pour vous, Thomas Ostermayer?
Oui, c'est la première fois depuis, à mon avis, depuis plus que 20 ou 30 ans que des politiques essayent d'interdire certaines séquences d'un spectacle. Et ce n'est pas arrivé les derniers 30 ans. Alors, c'est une nouvelle qualité de combat politique.
Est-ce qu'au fond, c'est parce que cet endroit aussi, la Schaubühne, c'est un espace civique, comme le disait Martin, c'est parce que le théâtre devient aussi un espace politique, un espace civique, un espace d'engagement. D'ailleurs, là-bas, vous vous engagez aussi pour les réfugiés, concrètement, à la Schaubühne.
C'est pas une choix qu'on prend de dire... Tiens, maintenant, on va faire un théâtre civique, on va faire un théâtre engagé, on va faire un théâtre politique. Pour moi, c'est plutôt le cas que moi, je suis un homme engagé, je suis quelqu'un qui se considère très politique, qui s'intéresse beaucoup à la politique, beaucoup à l'histoire, beaucoup à l'histoire de la gauche, comment ça a développé les dernières 30, 40 ans. Et puis, parce que je suis comme ça, notre théâtre, dans les temps modernes, dans les temps qu'on vit maintenant, arrive au focus de certains combats, puisque nous défendons notre combat, nous défendons un certain regard, un certain droit, d'attaquer dans les pièces de théâtre, dans les, on pourrait aussi dire, satires qui sont dans le spectacle de Falk Richter. Et d'un coup, on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de reproches, beaucoup de difficultés, mais ça montre le développement de la société, pas forcément le développement de notre théâtre.
Vous dites qu'il y a des menaces physiques, réelles, une violence non pas symbolique ou culturelle, mais une violence criminelle, qui s'invite jusque aux portes, voire dans la salle de la Schaubühne. On sait que ça peut être le cas aussi en France. Vous avez pu dire il y a quelques années que la violence de l'actualité, qui touche maintenant justement donc le théâtre lui-même, renforce le théâtre. Vous vous sentez renforcé ou vous vous sentez affaibli par la situation?
Dans toutes les mauvais développements, il y a une petite chose qui est bien, c'est que on sait quoi défendre, on sait pourquoi on fait ce travail-là, et d'un coup, il y a un grand partie de texte qui, d'un coup, devient actuel à nouveau. Je parle d'un de mes derniers spectacles qui s'appelle Professeur Bernardi, qui est de Arthur Schnitzler.
On le verra à partir de novembre à Paris, voilà, enfin au théâtre.
Oui,
et au théâtre des Gémeaux de Sceaux.
Oui, qui est une pièce qui parle de l'antisémitisme au début du XXe siècle à Vienne, en Autriche, qui est horriblement très prophétique en ce qui concerne ce qui est arrivé après. Dans la Shoah, dans la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je préférais, dans tous les cas, qu'on ne s'approche pas à cette époque-là. Moi, je préférais de faire des comédies de Shakespeare à la place des pièces qui parle de l'antisémitisme, du racisme, de la xénophobie, du fascisme qui monte. Mais là, je vais monter, par exemple, une pièce qui s'appelle « La nuit italienne » de Horvath, qui est une pièce sur la montée du fascisme en 1930, jusqu'avant sa mort, qui était mort ici, sur le Champs-Élysées à Paris, parce que il y avait une branche d'un arbre qui est tombée à cause d'un éclair. Vous connaissez l'histoire. Alors, Horvath, ses dernières pièces, c'est cette pièce-là qui raconte l'histoire du combat entre l'extrême droite et la gauche à l'époque, qu'il a observé lui-même en Bavière. Alors, c'est très régional, très local à la fois, et très politique et à nouveau horriblement prophétique. Alors, dans ce sens-là, et aussi les pièces de Shakespeare, hier dans la salle, en voyant Richard III, après tous les événements dans la tête qui ont eu lieu les derniers 6 mois, on regarde la pièce dans une autre façon. Et il y a des nouveaux espaces de résonance avec cette pièce d'un coup. Mais à nouveau, c'est horriblement que c'est qu'il y a des nouveaux espaces de résonance.
Alors nous allons entrer avec vous dans la salle du Théâtre de l'Odéon où se joue donc actuellement Richard III jusqu'au 29 juin. Et nous allons le regarder autrement, ce Richard III, avec les oreilles.
Ping-pong. C'est sur France Culture.
Now is the winter of our discontent, a glorious summer that is sun of joy, and all the clouds and lowered upon our house in the deep bosom of the ocean buried. Now are our brows bound with victorious dreams. Our bruised arms hung up for monuments, our stern and errands changed to merry meetings, our dreadful marches to delightful manners. But I, that am not made for sport and tricks, no made corn and afros looking glass, I, that am too rudely stamped and won't have majesty to strut for a wanton embling nip. I am determined a villain and hate the idle manners of these days.
Ich habe Intrigen eingefädelt. Gefährliche Vorbereitungen, um mit trunkenen Prophezeiungen, Rufmord und Traumdeutungen tödlichen Hass zwischen meinem Bruder Clarence und meinem anderen Bruder, dem König, zu säen.
Une fête, des confettis, une batterie au pied de la scène, de l'électro-rock saturé, des cris, et ce Richard III, ce sinistre duc de Gloucester, incarné par Lars Eidinger, qui pousse la foule, attrape le micro, fait cette chanson de ce tube de Shakespeare qui est la phrase « Winter of discontent hein, », nous voici venus dans l'hiver de notre déplaisir. On a parlé, Thomas Ostermayer, dans cette mise en scène de votre Richard III que vous reprenez au Théâtre de l'Odéon en ce moment à Paris, d'un sens peut-être politique, une résonance que vous avez sentie dans la salle hier à l'Odéon, enfin que vous avez sentie dans la salle lors des représentations, mais au-delà de la politique, ce que raconte et ce qu'il y a peut-être de très actuel dans votre Richard III, c'est la mise en scène de soi au XXIe siècle. C'est peut-être ce héros très narcissique, très storyteller de sa propre vie qu'on découvre avec Richard III.
Moi, j'étais choqué hier de la noirceur de cette pièce et aussi peut-être de cette mise en scène. Je me suis dit
la
après,
vôtre donc.
Ouais. Je me suis dit donc après le spectacle, je vais pas y retourner parce que je me sentis très mal hier soir en voyant le spectacle parce que c'est vraiment un voyage dans l'abysse de la condition humaine et ouais et peut-être la musique, le son, la lumière, tout ça fait que je me sentis très très mal. Et je veux pas y retourner.
Vous
mais vouliez, c'est la pièce. Hein.
Vous vouliez justement qu'on se sente mal. C'était votre vouloir à l'endroit du spectateur.
Non,
vous,
non enfin, moi je veux rien. Moi je veux rien. Je veux juste faire du bon théâtre. Mais
le bon théâtre, c'est ça.
Je veux pas faire mal les gens.
Mais Thomas
Ostermeyer. Non.
Faire vivre.
Alors, c'est du mauvais théâtre. Vous avez découvert que c'était du mauvais théâtre ou au contraire, comme disait Mathilde, le bon théâtre, ça fait forcément un peu mal.
Non, je suis pas d'accord parce que moi. Quand je monte un spectacle, j'essaie de ne rien vouloir. J'essaie de communiquer avec la pièce. Et là, je me suis mis en communication, j'espère bien, avec l'écriture de Shakespeare, avec l'écriture qu'il a fait avec Richard III. Et puisque je suis en communication encore quand je suis spectateur hier soir, et ce qui communique avec moi, avec moi-même, ce sont les aspects de moi-même que je ne veux pas avouer. Alors, c'est pour ça que je me sentis mal.
Mais
je ne voulais ça pas quand je me suis dit, tiens, je vais monter Richard III. J'essaie de ne rien avoir dans la tête. Pas d'image, pas d'idée, pas de forme. C'est juste en grande partie que de ce qu'on voit dans la mise en scène de Richard III et grâce à Lars, grâce aux autres acteurs, c'était eux qui ont promis un tas de choses que vous voyez. C'est vraiment, dans les meilleurs cas, c'est un travail commun, c'est un travail de recherche commun et c'est là où on est arrivé. La musique, on l'a développée pendant les répétitions. Aussi les musiciens, ils communiquent avec le travail sur scène avec moi. Alors tout le monde a essayé de mettre son mieux et c'est là où on est arrivé, mais c'est presque un peu comme les enfants laissés à la maison tout seuls et qui commencent après 2-3 heures de faire de faire mal aux autres et qui le lendemain quand les parents reviennent c'était pas peut-être la meilleure nuit de notre enfance.
Alors on peut dire que vous êtes un des enfants terribles du théâtre allemand, Thomas Ostermeyer, pour jouer sur cette idée de l'enfance. Et vous avez pu soutenir que, à vos débuts, tout du moins très remarqués, en particulier en France, où cette création de Richard III, d'ailleurs en 2015, avait connu un grand succès déjà au Festival d'Avignon, vous étiez motivé, mu par la rage. Et Richard III, ce personnage de Shakespeare, c'est la rage qui le guide. En tout cas, l'interprétation qu'en propose Lars Eidinger, vous disiez que c'était douloureux pour vous. Est-ce que c'est parce que, comme on dit que Flaubert a dit que Madame Bovary, c'était lui, que Richard III, et peut-être en particulier ce Richard III que vous faites jouer à Eidinger, c'est vous?
J'espère pas que c'est moi, parce que c'est monstrueux. Mais il y avait un monsieur hier soir, après la représentation, qui est venu me voir, qui disait, tenez, vous êtes arrivé au point où moi, j'ai de l'empathie pour Richard III à la fin de la pièce. Et on va très bien. Et ça, c'est peut-être un point qui est important pour le spectacle, parce que ça a beaucoup à voir avec nos temps, qui est, dans les fonds, c'est un enfant blessé, Richard III, qui est blessé déjà du fait qu'il est handicapé, du fait de sa laideur, du fait qu'il n'y a personne qui veut l'aimer, qu'il n'y a pas de femmes qui sont intéressées à lui. Et voilà, alors ça parle d'un individu exclu de la société. Et nos sociétés à nous sont sur les chemins de vivre une société qui est fondée sur le fait qu'il y a un grand parti exclu. En Allemagne, on pourrait même dire un tiers de la société est exclu. Le working poor, les gens qui même s'ils ont du travail, sont considérés comme des pauvres. Alors, aussi en ce qui concerne l'éducation, il y a un grand parti des gens qui viennent des milieux pauvres qui ne sont pas laissés entrer à la grande éducation, aux universités. Alors, cette exclusion se reproduit après, génération après génération. Et ça crée la violence. Et c'est ça ce qu'on peut voir dans les Richard III. C'est quelqu'un qui est exclu, qui est intelligent, mais en même temps, il est complètement exclu de l'amour, de la société, des gens qui sont au pouvoir. Et il prend revanche. Et ça, c'est un grand danger dans nos sociétés, que les gens qui sont exclus, et nous, bourgeois, intellectuels, élitistes, même si on est bien conscient de ça, on n'échange rien. Et alors, on crée des monstres à l'intérieur de nos sociétés et qui sont capables de prendre revanche pour être exclus. Et Richard III parle de ça.
Richard III, c'est vrai que c'est ce bossu, c'est cet enfant qui prend sa revanche, comme vous le dites, Thomas Ostermeyer, et qui nous fait sentir le monstre en nous, en tant qu'individu, nos propres pulsions, nos propres inconscients, en nous, en tant que société, donc c'est un nous un petit peu plus large. Mais au fond, quand vous dites que vous n'avez pas de volonté quand vous approchez d'un texte, est-ce que c'est dans l'étude de ce texte de Richard III, du contexte aussi historique, politique de ce 15e siècle où se déroule le spectacle, que vous vient cette idée d'une résultante à propos du monstre qu'est Richard III plutôt qu'un monstre absolu?
Non, pas du tout. Quand je fais des recherches sur les textes, bien évidemment, il faut rechercher et voir qu'est-ce que représentent les différents personnages. Il faut voir l'histoire de la guerre des roses pour mieux comprendre les relations entre les personnages. Mais déjà, à l'époque de Shakespeare, cette pièce n'était pas une pièce contemporaine, parce que ça a parlé des temps, 100 ans avant de Shakespeare.
Oui, Shakespeare est au 16e, voilà, et la pièce 16e. Parle du 15e.
Absolument. Alors, c'était pour lui... Et, juste un petit commentaire là-dessus, c'est difficile à faire une pièce qui... si on dit est-ce que tu fais ça historiquement, de quoi on parle, parce que historiquement, alors ça, dans le sens des costumes à l'époque de Shakespeare ou 100 ans avant, dans la situation de Shakespeare ou 100 ans avant, c'était avant l'arrivée du protestantisme en Angleterre, alors c'est tout à fait une autre société, alors on peut pas forcément respecter toutes les réalités de la pièce, toutes les réalités de l'époque de Shakespeare. Et moi, je crois que lui, il voulait parler de quelque chose qui est beaucoup plus profond, quelque chose qui vaut peut-être pour une grande partie des époques de l'être humain. Et voilà, alors la recherche sur les circonstances historiques, c'est une chose, mais l'autre, c'est par exemple ce que je viens d'expliquer sur l'exclusion des gens dans les sociétés, c'était quelque chose qui n'était pas pour moi évident quand je commençais à monter cette pièce. C'était quelque chose que je me suis rendu compte à travers le travail, à travers la rencontre avec la pièce. Alors l'idée que j'ai eue dans la tête, c'est complètement autre chose de ce que c'est devenu.
Mais alors dans votre mise en scène, votre choix de mise en scène de cette situation, de cette crise que décrivait Shakespeare et que vous décrivez aussi, qui est la nôtre, des sociétés occidentales, de la société française, de la société allemande, vous choisissez de le faire avec votre théâtre qui à la fois est très direct, presque réaliste, mais qui aussi force le trait, va dans l'outrance et l'outrage. Et je tombais sur cette phrase de Brecht qui dit que faire du théâtre, c'est organiser le scandale. Il y avait une nécessité à ce qu'il y ait du scandale dans votre mise en scène pour que les gens ouvrent les yeux?
Moi, j'y pense jamais à créer un scandale. Et je crois même que le scandale de Brecht, aujourd'hui, ça ne serait plus un grand scandale. Parce que pour Brecht, déjà, réfléchir était un scandale. Déjà mettrait en question les choses, la politique, la société, le pouvoir, c'était pour lui scandaleuse. Et moi, j'y pense sincèrement, j'y pense jamais. Mon seul passion ou mon seul enquête dans une salle de répétition, c'est que comment mieux comprendre les situations de la texte, comment mieux comprendre les dialogues, comment approfondir le jeu d'acteur, comment vraiment être capable de suivre toutes les pensées qui sont dans le texte, qui sont de temps en temps assez complexes dans l'écriture de Shakespeare. Toutes les choses autour que pour vous sont des choses contemporaines, populaires, vous dites même rock, tout ça, ça vient de soi. C'est très simple de faire ça. C'est très simple de donner un micro à un acteur et de lui faire du rap. C'est la chose la plus simple. Inventer un monde, une scénographie, travailler avec mon vidéaste français, Sébastien Dupuy, tout ça, c'est du plaisir. C'est pas difficile à faire. Ce qui est difficile, c'est travailler avec les acteurs sur les émotions et sur la pensée, sur la profondeur des textes.
Accorder les mots aux choses, c'est aussi l'ambition de Patrick Boucheron qu'on a reçu dans Ping Pong, historien, on l'écoute.
Ce qu'on a appelé pendant longtemps les moments machiavéliens était ce qu'il appelait la qualità dei tempi, c'est la qualité des temps, c'est-à-dire ce moment un peu incertain, toujours inquiétant, où nous ressentons une forme de fatigue démocratique, où nous craignons de ne pas d'être désarmés face à ce que nous devrions vraiment défendre, ce contre quoi il faudrait vraiment résister. Et ces moments sont à la fois inquiétants et entraînants. Ce qui doit les entraîner, justement, c'est la langue, c'est la volonté de reprendre langue avec le réel, c'est-à-dire, au fond, de laisser tomber, mais d'un coup, de laisser tomber la langue de bois, ou de la décaper, c'est-à-dire, au fond, de la ramener à un éclat qui n'est pas l'éclat trompeur des mots dont nous parlait Machiavel, mais qui est justement la transparence des choses. Au fond, lorsque les mots ne renvoient plus aux choses, on a un moment qui est un moment inquiétant.
Un moment machiavélien, défini par l'historien Patrick Boucheron. D'ailleurs, ça résonne. Hein. 15e siècle, Machiavel. 15e siècle, donc, pour le contexte de ce Richard III de Shakespeare que vous mettez en scène, Thomas Ostermayer. L'idée de cette langue de bois, de ces mots qui sont déconnectés des choses, est-ce qu'au fond, là, c'est pas votre lecture de Richard III qui joue aussi, et une envie de donner aux spectateurs peut-être des armes pour lire autrement cette mise en scène du langage par le politique, pour la voir, pour s'en détacher, pour s'en purifier, pour s'en libérer?
Une chose qui m'a fait mal hier en voyant le spectacle, c'est exactement ça, que la plupart du temps, quand on est conscient de ce qui se passe sur scène, la plupart du temps, tout ce qui est dit Richard III est faux. Il est en train de mentir tout le temps. Alors, le spectateur qui suit la pièce, qui suit la narration du spectacle, est bien conscient qu'il y a un grand pouvoir dans le langage, parce que c'est l'arme la plus puissante de Richard III, parce que tout ce qu'il fait, c'est convaincre, c'est manipuler avec les mots. Alors, il y a cet décalage, cette langue de bois entre ce qu'il dit et entre la vérité. Mais lui, il vient de décrire ça, une décadence de la société. Et d'un coup, il y a un Machiavelli qui arrive, qui remet en ordre la relation entre la réalité et les mots. Dès que là, dans ce spectacle-là, avec Richard III, c'est le contraire, parce qu'il y a cet décalage entre la vérité et les mots utilisés par Richard III. Et ça, ça m'a aussi rendu très, très triste parce que on voit quelqu'un en train de mentir et dans une époque où cette fake news et la terreur de la communication, de la politique de Trump est horrible. Et de suivre cette soirée et de suivre Richard III qui ment tout le temps et en même temps se dire, tiens, on est assez proche de ce qui se passe aujourd'hui chez nous, ouais, ça m'a rendu très triste.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une raison de se réjouir avec ce menteur de Richard III qui s'exprime dans la langue de Shakespeare, qui est une langue tellement inventive, qui va du côté de la poésie, du burlesque, de la grossièreté, de la littérature, alors que la langue de bois qu'évoquait Patrick Boucheron et qui est celle d'aujourd'hui, elle a commencé avec la LTI, la langue du Troisième Reich que Victor Klemperer avait analysée. Mmh. C'est une langue des chiffres, c'est une langue mécanique, mécaniste. Mmh. C'est aussi peut-être une arme de résistance que de donner à entendre fut tellement songère, la langue de Shakespeare, qui est une langue poétique.
Oui, il y a cette ambiguïté, puisque, comme vous le dites, la langue de Shakespeare est encore d'une grande poésie, d'une grande beauté. Et c'est vrai qu'un parti du plaisir de ce spectacle, c'est se réjouir des personnages sur scène qui font les choses que nous, dans la plupart du temps, dans nos vies personnelles, évitent de faire. Mais
heureusement,
mais de temps en temps,
on ne fait pas tuer ses frères et sœurs.
On n'essaie
pas d'épouser la fille dont on a tué et le père et le mari.
Absolument, mais en même temps, on connaît tous des émotions de ressentiment. Des émotions de moments où on trouve que c'est injuste ce qui nous est arrivé, alors on a de temps en temps le sentiment de prendre revanche pour ça. Et si vous voulez bien, Richard III, il le fait pour nous sur scène. Et j'espère que il y a un côté cathartique dans cette spectacle, que nous, après avoir vu Richard III faire tout ça, on a moins besoin de faire tout ça dans nos propres vies.
C'est une bonne propagande contre le terrorisme.
1, 2, 3.
Eh bien, à suivre dans Ping Pong, la catharsis continue avec Thomas Ostermeyer.
Ping Pong. La culture sans limite.
Thomas Ostermeyer, vous qui avez en vous cet autre, le musicien, vous qui vous demandez pourquoi le théâtre n'arrive pas à créer les mêmes sentiments, avec la même force, la même énergie que la musique, vous qui justement tentez de répondre à cette question dans vos mises en scène, vous devriez être sensible à la pop noire des Brooklyniens de Cigarette After Sex. Un nuage aussi sensuel que vénéneux qui a tout de suite envahi les tubes. Des dizaines de millions de vues pour des titres sombres qui n'ont rien de facile ni de mignon comme un chaton. Le premier album cinématographique de ce groupe emmené par Greg Gonzalez est enfin sorti en ce mois de juin chez Partisan Records. Comme une vague froide sur la chaleur collante des tubes formatés. Regardez les abîmes en face mais en douceur. Voilà Cigarette After Sex et cet extrait. Apocalypse. On the forest. Vague, peut-être pas si froide, légèrement tiède.
C'est plutôt chaud, non, cette vague?
Mais c'est en même temps des gens qui sont nourris de ce qu'on a appelé la cold wave, quand même. Ce petit mouvement comme ça.
Jamais entendu la cold wave.
La cold wave, vous voyez, ça peut être des gens comme ça, un peu post-New Order, quoi.
Une sorte
de vapeur électronique.
Ok.
En plein réchauffement climatique.
Tiède, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, tiède mais intéressant. Cigarette, After Sex et son bout brûlant, son album aussi qui vient d'être publié chez Partisan Records.
Ping pong.
Walk past the cafe, but you don't eat when you live too long. Oh, oh, oh no, you're a rock and roll suicide.
Shift break for snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float, rob your mind, they're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone.
Alors cette musique, à présent, elle ne vient pas de Brooklyn, c'est du Tchekhov, c'est la musique choisie par vous, Thomas Ostermayer, dans votre version de La Mouette de Tchekhov, c'est Rock'n'Roll Suicide. En France, on est fasciné de longue date par les troupes de théâtre allemandes qui proposent un jeu très physique, mais aussi des actrices et des acteurs qui savent chanter. Alors, on s'y met depuis quelques années sous l'influence des Allemands. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre rapport, qui est pas forcément allemand, qui est tout simplement Ostermayer, à la musique? Est-ce que c'est comme dans les musiques de films où la musique qu'on retrouve aussi au bord de la scène, dans l'action de Richard III, qui est donc à découvrir en ce moment au Théâtre de l'Odéon à Paris, jusqu'au 29 juin, cette musique, elle vient dire encore autre chose de la pièce?
Non, pour moi, la musique dans le théâtre est beaucoup plus importante que le bande-son d'un film. Parce que si on arrive à faire la musique en direct, c'est une autre sensation que le bande-son dans une salle de cinéma. Cette côté en direct, ça apporte quelque chose de très, très émotionnel, très, très sensitif. Ou sensuel, et en plus C'est très touchant quand il y a un être humain devant nous qui chante sans être même pas amplifié, par exemple. Alors c'est quelque chose qui a à voir avec la beauté du théâtre, qui est la beauté que c'est produit dans l'instant. Hein. Alors si l'acteur rate le chanson, c'est raté. C'est pas une émission de radio qui est enregistrée. Quand c'est raté, on va couper. Quand c'est en direct, c'est en direct.
Vous voulez prendre le risque de chanter?
Non, pas maintenant. Et puis, j'adore le monde de la musique. J'aurais préféré, à la place de travailler dans le milieu de théâtre, j'aurais préféré de travailler dans le milieu de musique. J'ai commencé à faire de la musique quand je suis arrivé à Berlin pendant des années avant d'entrer dans le monde du théâtre. Le seul problème, c'est qu'à Berlin, c'est pareil qu'à Paris, il y a un grand nombre des gens qui sont très très bons avec leurs instruments, avec la musique. La concurrence est immense. Dès que dans le monde du théâtre, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils font, alors c'est beaucoup plus facile d'entrer dans ce monde-là.
Et est-ce qu'au fond, il n'y a pas plusieurs Thomas Ostermayer qui se sont présentés au début, et puis vous avez abandonné un certain nombre d'hypothèses de vous-même, le comédien Thomas Ostermayer, finalement, petit à petit, vous allez passer à la mise en scène parce que vous n'aimez pas les mises en scène qu'on vous propose
vous
en tant que
comédien. Vous savez ce que je fais demain, je vais tourner, je fais l'acteur, mais pour le cinéma, je ne fais plus sur scène, c'est trop difficile, mais je joue encore.
Vous jouez encore, mais vous aviez peut-être pris davantage cette place de metteur en scène, davantage cette place de metteur en scène que cette place de musicien aussi que vous avez en vous. Mais c'est des choses voilà, auxquelles vous avez renoncé ou vous allez continuer à poursuivre?
C'est un problème d'emploi du temps. Si j'aurais le temps, je ferais. Là, avec la troupe de La Mouette, avant la première à Lausanne... On a fait un grand erreur parce qu'on a fait la fête avant la première, après la générale. On a fait la musique jusqu'au matin, jusqu'au lever de soleil. C'était une faute parce que les acteurs étaient obligés de monter sur scène après cette fête. Alors, je le fais de temps en temps. J'adore faire ça, mais... Ouais, c'est une question du temps.
Mais pour revenir à cette mouette justement de Tchekhov et à la musique, là on est sur un exercice particulier puisque vous n'êtes pas dans votre langue, Thomas Ostermayer. On passe d'abord par le russe. Vous avez travaillé avec Olivier Cadio sur cette mise en scène pour le texte. Comment dans ce travail préparatoire vous trouvez voilà votre musique dans le texte que vous mettez en scène, Thomas Ostermayer?
C'était simple parce que moi j'ai fait une version de la mouette. D'abord en allemand, et puis après c'était mon ami Olivier qui a traduit de l'allemand ma version de la mouette russe. Il a bien regardé aussi le russe avec un traducteur russe qui parle le russe, mais c'est un mélange. Et en plus, pendant le spectacle, il y a pas mal de séquences où c'est complètement improvisé, où il y a des séquences qui sont écrites et développées par les acteurs.
Oui, une réflexion sur les réfugiés syriens, notamment, sur l'article 49.3.
Sur la mise en scène contemporaine.
Mais je voudrais revenir justement sur votre relation aux acteurs, parce que Mathilde le rappelait, vous avez commencé... Après avoir fait de la musique, Thomas Ostermayer, comme acteur, vous étiez mécontent des mises en scène. Et puis après, vous vouliez encore être acteur, mais vos mises en scène à vous avaient du succès. Encore aujourd'hui, donc, on vous réclame comme acteur puisque vous vous apprêtez à tourner encore pour le cinéma. Je crois que c'est le metteur en scène allemand Klaus Michael Gruber qui parlait d'une sorte de duel de western entre le metteur en scène et l'acteur. Qu'est-ce que ça peut être, je pense, à ce pauvre Lars Eidinger qui joue Richard III, donc en ce moment à l'Odéon sous votre direction. Qu'est-ce que ça peut être, les relations?
Pourquoi le
cow-boy?
Pourquoi le pauvre?
Si c'est un duel et que vous mâchez pas vos mots, comment ça se passe? Le face-à-face entre vous et vos acteurs?
Oui, pas d'accord avec Gruber, même si je crois que c'était un grand homme de théâtre. Et je suis assez surpris de cette anecdote qu'il appelle ça un cowboy. Un duel entre deux cowboys.
Il parlait de sadomasochisme aussi.
Ah oui, ah, c'est bizarre.
Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a un Richard III qui est pris par des sangles prothétiques sur scène Thomas Ostermeyer. C'est peut-être là que ça se joue, ce rapport sadomasochiste. Avec Thomas Seidinger.
Non, je ne crois pas du tout. Le travail avec moi et Lars dans une salle de répétition, c'est plutôt une compétition sportive. Et une compétition qui est sur la question qui est le plus fou, qui a l'idée le plus extraordinaire, qui est les plus absurdes. Et puis, c'est lui qui propose des choses. J'ai beaucoup aimé, dans une interview, Lars, il a dit que son plus grand désir, c'est faire plaisir à moi et de sentir cette sorte d'érotisme dans une salle de répétition où il a le sentiment qu'il me rend plaisir. Parce que c'est fou ce qu'il propose, parce que c'est originel, parce que c'est complètement à côté de la lecture cliché d'une scène.
Mais sur ce Richard III, par exemple, qu'est-ce qu'il a proposé qui vous ému ?
Par exemple, il y a deux choses qui m'arrivent dans la tête tout de suite. D'abord, le fait qu'il se met à poil devant l'alien, ça n'a rien à voir avec moi. Rien. Rien. Alors, c'était dans une salle de répétition, première répétition de cette scène. D'un coup, il se met à poil. Bah, moi, je me suis dit, tiens, j'aime pas du tout quand les acteurs sont nus sur scène, j'aime pas du tout. Mais si ça donne du sens pour la scène, je suis d'accord. Et là, je trouvais que ça fait beaucoup de sens parce que il s'est faibli devant elle. Elle fait comme si elle pourrait lui tuer avec l'épée. Et quand il est nu, il peut rien cacher. Il n'y a pas un petit couteau à côté, rien. Alors, il est vraiment complètement faible devant elle. Alors, j'étais d'accord avec ça. Et deuxièmement, un moment, le début du cinquième acte, après le couronnement de Richard III, c'est lui qui a eu l'idée qu'à partir de ce moment-là, il a une sorte de corsetage qui fait que son corps handicapé, bossu, d'un coup est étroite et il se tient grâce à cette corsage.
À cette prothèse, en fait.
À cette prothèse. Et moi, je trouvais ça à nouveau très convaincant parce que c'est le rêve de Richard III, de se libérer de tout son côté handicapé. Et en même temps, se libérer veut dire il faut utiliser une prothèse qui lui enferme encore plus. Alors j'ai beaucoup aimé cette ambiguïté dans cette costume. Et cette costume, c'était un propos de Lars. Alors voilà, c'est une compétition en permanence. Et je trouve tout ce que vous citez là, sadomasochisme, les deux cowboys, ce sont des discours de la génération des metteurs en scène de 68. Ça n'a rien à voir avec notre génération. Parce que notre génération, on cherche le plaisir, la joie, le divertissement, le rencontre, la communication, l'esprit ensemble.
Vous parlez quand même de compétition sportive.
Oui. Mais ça n'a rien à voir avec sadomasochisme.
Et justement, on se souvient, hein, Lars Eidinger, qu'il avait interpellé Manuel Valls à Avignon. Il peut faire
Vous étiez dans la salle?
On en a entendu parler quand on vit dans ce petit pays, ce petit village qu'est la France. Il y a des moments quand même où vous vous dites qu'il propose des choses bien, mais il va trop loin, Lars Eidinger.
Pas du tout. Non, j'ai adoré ce moment. C'était un moment historique pour moi parce qu'on rêve. On rêve de moments pareils parce qu'on est très proche de la réalité du théâtre élisabéthain, qui était un théâtre où il y avait les gens au pouvoir sur la galerie, dans les balcons, la foule en bas. Et les acteurs à l'époque, ben, on ne sait rien parce qu'on n'était pas avec eux, mais le rêve, le fantasme qu'on a, c'est qu'il y avait aussi une sorte de communication ou une sorte de démasquer le pouvoir dans le Globe Theatre. Et à ce moment-là, c'était hallucinante parce que les politiques eux-mêmes, ce sont aussi des acteurs. Ils savent beaucoup plus de quoi parle le théâtre et de quoi parle Shakespeare parce qu'ils parlent tout le temps de la masque, ils parlent tout le temps de la performance. Et voilà, alors, Manuel Valls, il est forcément un spécialiste de Shakespeare ou des sujets de lesquels parle Shakespeare. Alors, il fait partie de ce monde. Alors, c'était une sorte de complicité à la fois entre Lars et cet acteur qui joue le politique. Alors, c'était complètement justifié.
Mais alors, et Elisabeth.
Il y a un grand Français qui s'est à la fois mêlé de littérature et de théâtre et de politique. C'est Victor Hugo. Victor Hugo, à qui on doit notamment un grand discours sur l'Europe, où il était notamment dit qu'un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Vous êtes, Thomas Ostermayer, président du Haut Conseil culturel franco-allemand depuis quelques années. Et vous faites part aujourd'hui avec une certaine amertume du fait que notre Europe, l'Europe de la paix, s'est fondée depuis 1945 à la fois sur les cendres d'un génocide, mais aussi sur la déréglementation, la libération au sens parfois le plus sauvage du commerce. Dans ce contexte, on a l'impression que vous êtes un peu désabusé sur le rôle de l'art. Quel peut être le rôle de l'art dans ce décor ?
D'abord, il faut dire que l'Union européenne qui est à défendre dans le sens profond a vu beaucoup des changements, puisque c'est devenu une idée qui veut dire il faut ouvrir les frontières pour que les biens peuvent voyager. Alors c'est devenu une union des marchés. Moi je défends l'Union européenne dans le sens que on partage un certain espace culturel, on partage une grande partie de la culture, les intellectuels, les artistes européens étaient toujours influencés l'un de l'autre sans avoir eu l'Union européenne. Mais si on veut que cet projet a encore un avenir, il faut la remplir avec les idées culturelles et les idées sociales. Alors, les questions sociales et culturelles ne sont pas assez traitées dans l'Union européenne. Et c'est bien pour ça qu'une grande partie des gens en Europe mettent en question cette idée de l'Union européenne. Mais il faut faire très attention avec les discours, parce que les discours se mêlent, il faut beaucoup différencier dans les discours. On peut être un défendeur de l'Europe en critiquant l'Union européenne.
Justement, dans l'action en tant que président du Haut Conseil culturel franco-allemand, quelle est votre direction ? C'est-à-dire que sur le terrain, comment ça peut se traduire, Thomas Ostermayer, justement, avec cette idée d'Europe sur laquelle tous les artistes se mettent d'accord, mais finalement être d'accord entre soi, dans une forme d'élitisme, c'est très, justement ce qu'il faut essayer de bouger.
C'est très, très concret, parce qu'on défend, par exemple, l'idée des droits d'auteur. On défend l'idée des droits d'auteur contre l'idée de copyright. L'idée du copyright, c'est une idée des États-Unis et de l'Angleterre que les deux pays, les États-Unis et l'Angleterre, veulent installer dans les lois de l'Europe. dans le sens que le droit d'auteur protège beaucoup plus le droit d'auteur, dès que le copyright, c'est un loi qui fait voyager le right, la, qu'est-ce que c'est les... le right en
français.
Le droit de copier une œuvre d'art. Alors, tu vends le droit à copier, ce qui n'a rien à voir avec l'auteur qui est à la source de la création. Et ça, c'est un combat très, très concret. Avant Trump, on a beaucoup... Moi, je me suis beaucoup engagé contre le TTIP, contre cet accord entre les États-Unis et l'Union européenne. Alors, j'essaie, dans un travail très, très concret, de ne pas abandonner, en français, on dit l'exception culturelle, dans la politique culturelle.
Ping-pong, concrètement, c'est fini.
Merci beaucoup, Danke sehr, Thomas Ostermayer, votre Richard III de William Shakespeare, avec en particulier Lars Eidinger dans le rôle de Richard III. C'est à découvrir ou à redécouvrir jusqu'au 29 juin au Théâtre de l'Odéon à Paris. Et pour les plus vénards et voyageurs d'entre vous, eh bien, au Festival de Manchester dans quelques jours, vous pourrez découvrir votre nouvelle création, Thomas Ostermayer, le retour à Reims de Didier Héribon. Et puis, pour le public français et francophone, un peu plus tard, après l'été, en novembre, on pourra enfin découvrir en région parisienne, le professeur Bernardi au Théâtre des Gémeaux à Sceaux.
Le ping-pong est une représentation radiophonique qui se joue en équipe. Et quelle équipe à la rédaction? Aïssatou Ndoye, Jeanne Aléo, Seam Boutata et Anna Baron. À la réalisation, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Bernard Laniel.
Demain dans Ping-pong, le grand cinéaste Kim Ki-duk qui nous revient entre deux rives.
Et dans quelques instants, c'est Avoinu sur France Culture.